bonjour et à tous et à toutes. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver pour de nouvelles, bon, pas toujours très bonnes, mais au moins des nouvelles lucides et objectives. Alors, pour commencer, tambour battant cette nouvelle saison, je vous propose de revenir sur les événements climatiques qui ont marqué l'été 2025, faire un petit bilan. Alors bien sûr, le plus remarquable, mais non pas exceptionnel, ce sont les deux vagues de canicule, celle de juin et celle d'août, avec des températures supérieures à 40 degrés, tenez-vous bien, à 32 reprises, soit autant que durant toute la seconde moitié du XXe siècle. Et ces deux vagues de chaleur figurent parmi les plus longues, les plus intenses et les plus étendues géographiquement. C'est ce qui fait qu'elles sont remarquables. Donc, remarquable oui, un été exceptionnel, eh bien non, parce que ce sera un été normal en 2050. Le pire semble donc à venir parce que selon les scientifiques, sur la trajectoire actuelle d'un réchauffement à plus 4 degrés, la France connaîtra 10 fois plus de vagues de chaleur d'ici à la fin du siècle. Alors, le 25 août dernier, dans un entretien accordé au Monde, la climatologue Valérie Masson-Delmotte, que tout le monde connaît maintenant, rappelait que rétrospectivement, à la fin de ce siècle, l'été 2025 nous semblera frais. Une perspective vertigineuse, tant il est difficile de l'imaginer aujourd'hui, bien sûr. Et elle ajoute, je cite, « Actuellement, après chaque vague de chaleur, il y a une réaction collective qui est de passer à autre chose, ce qui construit une forme d'indifférence très préoccupante. Le danger, poursuit-elle, vient aussi d'un déni collectif. » Et pourtant, l'été fut bien meurtrier puisqu'il a causé la mort de 780 personnes. Mais ceci en toute discrétion, soit l'équivalent de deux crashs d'un Boeing 747 qui, eux, auraient fait la une des médias.
Et cet été a été aussi celui des incendies à répétition.
Eh oui, tout à fait Margot, parce que comme dans l'Aude, eh bien on a compté jusqu'à 15 incendies simultanés. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on se prépare à avoir les moyens pour un jour combattre tous ces incendies en même temps? Et puis le problème, c'est que ces risques d'incendie montent vers le nord. Parce que si le réchauffement s'établit à plus 4 degrés, ce qui est prévu pour 2100, eh bien le risque d'incendie en région parisienne sera égal à celui des côtes méditerranéennes aujourd'hui. Et puis au feu, se rajoute bien sûr le problème de l'eau. Entre la multiplication des cyanobactéries liées à la conjugaison pesticides et chaleur, et la forte diminution de la quantité d'eau stockée dans les nappes phréatiques, eh bien nous allons au-devant de problèmes assez flippants, effectivement. Alors que ce soit à cause de l'intensification de l'évapotranspiration ou du pompage excessif pour faire pousser du maïs, eh bien le cycle de l'eau s'accélère, faisant alterner inondations et sécheresses. Parce que plus le climat se réchauffe, eh bien plus les pluies sont diluviennes. L'atmosphère contient en effet 7% de plus d'eau par degré supplémentaire de réchauffement.
Mais alors cet été caniculaire peut-il relancer la transition écologique après des mois de recul de la politique écologique des pays et notamment celle de la France ?
Eh bien au risque de vous décevoir Margot, ce n'est pas au centre des préoccupations ni politiques ni économiques. D'ailleurs personne par exemple ne parle de la prochaine COP qui se tiendra en novembre à Belém et pire encore, 90% des pays participants n'ont toujours pas rendu leur feuille de route. Donc on en est très loin. Mais on préfère nous dire, on va s'adapter. Le problème de l'adaptation, c'est que ça ne marche pas au-delà de certaines limites dites dures. La seule adaptation, c'est alors, au bout d'un moment, de quitter le territoire. Et on croit que ça concerne que des micro-États comme les îles Maldives. Eh bien, pas du tout. Parce que c'est une question qui va se poser aussi, par exemple, excusez-moi du peu, pour New York. Et ça, dans les toutes prochaines années, puisque la grosse pomme n'est construite qu'à un mètre au-dessus du niveau des mers, d'Atlantique. Alors bien sûr, on peut se rassurer en se disant que la France, pour ne citer qu'elle, s'est dotée d'un magnifique plan d'adaptation. Le problème, c'est que rien n'est dit ni sur la méthode, ni sur la trajectoire, et bien sûr, ni sur le coût. Alors, des initiatives locales voient le jour, que ce soit à Paris, à Lyon, il y a des choses qui se font. Mais le problème, c'est que ça ne va pas assez vite par rapport à l'urgence de la situation. Par exemple, François Vimeux, climatologue française, rappelle, s'il en est besoin, que le dérèglement climatique est entièrement d'origine humaine. C'est un fait scientifique, ce n'est pas à moitié ou un tiers, c'est entièrement, au même titre que la Terre est ronde, l'Anthropocène est dû à l'humain. Et les premiers contributeurs sont les énergies fossiles, bien sûr, et la déforestation. Alors pourtant, au premier semestre 2025, malgré ça, les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter dans tous les pays industrialisés. Sauf, et là je vous le donne dans le mille Margot, sauf en Chine. Alors bien sûr, la Chine reste toujours le premier émetteur de GES avec un tiers des émissions mondiales. Mais si on ramène ce chiffre à son 1,5 milliard d'habitants, eh ben un Chinois in fine a la même empreinte carbone qu'un Français, soit 9 tonnes par an. Et figurez-vous que depuis 12 mois, les émissions carbone de la Chine se sont stabilisées. Pas étonnant ça quand même ? Alors, pour conclure, je dirais bien sûr que oui, la dette publique c'est important, bien sûr. Mais moi je pense que la dette écologique l'est encore davantage. Parce que dans l'héritage que nous laisserons à nos enfants, la seule et unique question qui vaudra sera bel et bien de fixer une priorité. Être endetté ou mourir de chaud ? Au sens figuré, j'espère.